Bonjour très chers auditeurs, Catherine, à votre santé. Aujourd'hui au sommaire de l'émission, 10 conseils pour récupérer après le sport. Puis je vous emmènerai découvrir l'exploitation de Adrien Galaret, un producteur de spiruline dans le Lot. Puis Marine nous racontera une belle histoire d'Halloween, le festin des morts. Nous retrouverons Clément pour sa rubrique lithothérapie, aujourd'hui l'œil du tigre, et dans Trucs et astuces, comment stopper un rhume. À tout de suite. Notre chronique sportive, tout de suite avec Margot, 10 conseils pour bien récupérer après le sport. Bonjour Margot.
Bonjour à tous. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de donc avoir un moment de retour au calme après chaque séance. Il est important de faire redescendre le rythme cardiaque en respirant profondément. Ne vous arrêtez donc pas brutalement après l'effort pour rentrer directement chez vous, mais prenez ce temps pour commencer la récupération. Buvez beaucoup d'eau. Pendant l'effort, votre corps a perdu une quantité importante d'eau, donc il est important de bien s'hydrater en buvant de 1,5 à 2 litres d'eau après votre séance tout au long de la journée. Étirez-vous, mais pas trop. 5 minutes après la séance suffisent pour soulager vos muscles et prévenir les courbatures. À ce moment-là, faites plutôt une bonne séance d'une heure par semaine, en plus de vos étirements de 5 minutes après chaque séance, pour ne pas non plus trop étirer votre muscle, ce qui va donc supprimer les effets de muscles plus forts et plus toniques lors de votre séance. Ensuite, prenez une bonne douche en insistant sur les muscles qui ont été sollicités avec de l'eau bien chaude, ou prenez un bain. Finissez toujours par quelques secondes d'eau plus froide sur les jambes pour favoriser la circulation du sang. Sixième conseil, bien manger. Après le sport, ayez une alimentation variée pour reconstituer vos réserves énergétiques perdues pendant l'effort. Faites attention à ne pas manger trop gras, trop sucré après une séance au risque de supprimer tous les bienfaits de votre séance. Pensez à bien dormir. Cela reste primordial pour récupérer correctement. Dormez entre 6 et 9 heures par nuit dans de bonnes conditions qui va permettre à vos muscles de se reconstruire. Massez-vous, faites-vous masser avec de l'huile d'arnica ou de l'huile essentielle de Gaultéry mélangée à de l'huile végétale. L'huile de millepertuis aussi est très efficace. Vous pouvez aussi vous aider d'accessoires de massage tels que le rouleau en mousse ou communément appelé le foam roller en anglais que vous pouvez facilement trouver dans n'importe quel magasin de sport. Neuvième conseil, laissez le temps aux muscles de se reconstruire. Pensez à faire des pauses entre vos entraînements chaque semaine de 1 à 2 jours pour éviter le surmenage et les blessures. Et enfin, dernier conseil, et non des moindres, écoutez votre corps. N'essayez pas d'en faire trop, soyez à l'écoute de vos sensations pour optimiser vos entraînements. Si votre corps vous dit qu'il n'est pas au top de sa forme aujourd'hui, privilégiez plutôt une séance de sport plus douce. Et si votre corps a besoin de prendre l'air, allez marcher ou courir 30 minutes dans la forêt. Il ne sera que vous en remercier.
Merci Margot pour tous ces conseils. À très bientôt.
Oui, à bientôt.
Après cette courte pause musicale, nous retrouverons la rubrique Trucs et astuces.
Mais Mère Lachaise dans les orties, tes Père Lachaise n'est pas rentré. Il est tombé dans l'escalier et sa bouteille s'est pas pétée. Pépère Lachaise, Madame Satan s'en va couler dans le caniveau. Pépère Lachaise, Madame Cajot, femme de Roger qui avait très chien. Un chien est mort, l'autre s'est pendu, y'a plus d'amour dans les foyers. Il s'en va couler dans le caniveau, l'hiver est là qui monte les crocs. T'as beau t'appeler Oscar Tramont, t'en as tout seul comme un rameur. T'as beau t'appeler le grand Dédé, t'en as pas plus fier qu'un chat crevé. Le soleil dort, petit néon dort sous les ponts. Petit Lucien, petite pluie dans tes chaussettes. Petite pluie au fond des eaux, l'hiver est là qui monte les crocs. T'as beau t'appeler Oscar Tramont, te v'là tout seul comme un rameur. T'as beau t'appeler le grand Dédé, t'en as plus fier qu'un chat crevé.
La 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 la
Père Lachaise, Madame Cajot, femme de Roger qui avait très chic. Un chien est mort, l'autre s'est pendu, y'a plus d'amour dans les foyers, il s'en va couler dans le caniveau, l'hiver est là qui monte les crocs. T'as beau t'appeler au sacrament, t'es là tout seul comme un rameau. T'as beau t'appeler le grand bébé, t'es pas plus fier qu'un chacolet. Le soleil dort loin de Gare du Nord, le soleil dort petit néon. Le soleil dort loin de Gare du Nord, le soleil dort petit néon. Dors sous les ponts, petit Lucien, petite pluie dans tes chaussettes. Petite pluie au fond des eaux, l'hiver est là qui monte les crocs. T'as beau t'appeler Oscar Tramont, te v'là tout seul comme un rameau. T'as beau t'appeler le grand bébé, t'as pas plus fier qu'un chacolé.
Bonjour très chers auditeurs, alors aujourd'hui pour notre dossier spécial, je suis exceptionnellement en extérieur et dans le Lot. Aujourd'hui je viens rencontrer Adrien Galaret qui est producteur de spiruline à Saint-Martin-la-Bouval au lieu dit Nouguérac. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Alors, j'avais envie de découvrir, de vous faire découvrir aujourd'hui la spiruline. Donc la spiruline, qu'est-ce que c'est, Adrien ?
Alors la spiruline, c'est une micro-algue communément utilisée comme un aliment qu'on achète en parapharmacie ou dans les magasins bio et qui est très riche en nutriments essentiels à l'organisme. On peut résumer brièvement, c'est très riche en protéines, c'est 65% de son poids. Il y a beaucoup de fer, les gens en prennent souvent contre les anémies, donc voilà, c'est très riche en fer.
Là. Oui, je vois là, la spiruline apporte 30% des apports journaliers recommandés, c'est énorme. Hein.
Oui, et ça dans 5 grammes, c'est-à-dire une cuillère à café de spiruline. Donc c'est quand même un aliment intéressant, il y a énormément de vitamines antioxydantes, donc notamment la bêta-carotène où on a 400% des apports journaliers recommandés, tout ça dans une cuillère à café, et beaucoup de minéraux tels que le magnésium, le potassium, enfin une large palette d'oligo-éléments, de minéraux. Elle a quelques éléments assez rares comme la phycocyanine qui est un pigment bleu qui est aussi un antioxydant très puissant. Elle est riche en chlorophylle aussi, puisqu'elle est verte. Voilà, donc tout ça offre vraiment... J'ai oublié aussi la B12, importante pour les végétaliens, et tout le complexe des vitamines B. Donc c'est quand même pas négligeable. Vitamine K aussi, par exemple. Et donc tout ça offre vraiment une palette nutritive intéressante pour l'organisme. Donc la spiruline, en général, on l'appelle un super aliment. On en prend à petite quantité tous les jours, sous forme de cure. Et donc, il y a un effet qui est immunostimulant. Enfin, dans un premier temps, ça aura tendance à détoxifier l'organisme, à capter les métaux lourds, les évacuer. Et dans un second temps, un effet plutôt vitalisant et immunostimulant, comme je le disais.
Donc, c'est tout à fait ce qu'on cherche à amener en naturopathie, hein, nettoyer et ensuite revitaliser.
Oui.
Voilà, donc là je suis au bord d'un bassin, un bassin où Adrien produit la spiruline. Il fait une chaleur incroyable, je sens que je dégouline. Il fait très chaud, il fait toujours chaud comme ça toute l'année, c'est la température nécessaire pour... produire, pour cultiver,
oui.
On dit cultiver.
Oui, on dit cultiver la spiruline. La spiruline est pour comprendre son milieu de vie, c'est de la famille des cyanobactéries. Donc les cyanobactéries, c'est des bactéries, c'est un élément assez important. Souvent, on la confond avec une algue, parce qu'on l'appelle aussi micro-algue, mais c'est pas vraiment une algue comme on l'entend, une algue de mer. C'est plus proche de la bactérie, tant au niveau de son mode de multiplication que de son mode de vie. À l'exception que c'est une bactérie qui vit grâce à la photosynthèse. Donc elle capte la lumière du soleil, comme les plantes, elle fait de la chlorophylle, elle est verte, et elle se construit grâce à la photosynthèse. Et donc, cette bactérie, comme beaucoup de bactéries, elle a besoin de chaleur. C'est pour ça qu'il fait chaud, donc mes bassins de production sont sous serre. Donc il faut que l'eau soit entre 20 degrés et 40 degrés Celsius pour que la spiruline puisse vivre correctement.
Oui, je vois là, il y a combien de serres là chez toi, dans ton exploitation? Tu as plusieurs bassins là. Dans cette serre là où nous sommes, donc il y a deux bassins qui font à peu près combien? Ça fait quoi, 4 mètres de large?
Ben là,
sur combien là à peu près de long?
En longueur, je sais plus, je crois que c'est 17 ou 18 mètres.
Oui.
En fait, ils font 55 mètres carrés chacun. En bassin de spiruline, en surface de production, on raisonne en mètres carrés. Donc, on raisonne pas en profondeur de bassin, mais en surface.
D'accord.
Donc, moi, par exemple, j'ai une ferme qui fait actuellement 250 mètres carrés de culture. Donc, c'est réparti en 4 serres. Moi, j'ai opté pour des petites serres, mais il y a des producteurs qui ont des grandes serres avec jusqu'à 1000 mètres carrés sous une serre.
Et là, ça représente au niveau de la production, tu peux me dire peut-être un peu combien tu produis en kilos, je sais pas, par saison, par an, ou je sais pas, dis-moi.
Oui, alors effectivement, l'aspirine, on la compte en kilos et pas en tonnes. Enfin, ça, c'est les industriels qui la comptent en tonnes. Nous, on est vraiment des productions en France artisanales. Il faut savoir au passage qu'en France, il n'existe pas de production industrielle. On n'est que des producteurs artisanaux, avec une technique particulière qui définit la méthode artisanale. Par exemple, moi, je suis vraiment une petite ferme, quand on compare à ce qui se fait en moyenne en France. Donc 250 mètres carrés, j'arrive à produire une année correcte autour de 150-160 kilos de spiruline.
D'accord.
Voilà. Mon but est quand même d'augmenter un petit peu, parce que je suis un peu juste au niveau de la quantité de production. Mais il faut savoir qu'en France, la moyenne d'aujourd'hui est autour de 600-700 mètres carrés, les fermes moyennes. Voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets qui tournent autour de 1000-1200 mètres carrés.
Donc on peut te retrouver sur le marché à Villefranche de Rouergue, c'est là que je t'ai rencontré d'ailleurs, dans d'autres endroits je suppose.
Alors par rapport à la vente, oui, on peut me retrouver tous les jeudis matins au marché de Villefranche de Rouergue. D'autres endroits, après je vends à Villefranche, toujours à Villefranche, à la Biocoop. Ensuite j'ai trois autres magasins, un à Cajard. Ça s'appelle La Graine en Vrac, c'est le petit magasin bio de Cajard. Un à Figeac au sens bio et un à Cahors au Quercy bio. Après, je vends sur internet, j'ai un site internet qui est spirulinedolt.fr où les gens viennent directement sur place à la ferme l'été ou chez moi l'hiver.
Ah, on peut venir te rencontrer en prenant rendez-vous avec toi. Je laisserai tes coordonnées sur le site ou à la fin de l'émission. Alors, la spiruline, comment on y vient?
C'est vrai que...
Comment tu es tombé dedans quand tu étais petit ou... Je suppose que c'est pas par hasard.
Oui, c'est vrai que je suis tombé dans la marmite il y a 15 ans à peu près. 15 ans, ça fait pas longtemps, mais à la fois c'est vieux si on compare à ceux qui sont tombés dans la marmite en France, parce qu'il y a 15 ans, il y avait très peu de producteurs en France, et on n'était qu'une dizaine de luberlus à s'intéresser à la spiruline, quoi. C'était vraiment les balbutiements de cette culture.
Parce que la spiruline, elle existe à l'état naturel. Est-ce qu'on la trouve, où est-ce qu'on la trouve à l'état naturel?
Alors,
ça vient d'où, ça, la spiruline? On commence comment avec la spiruline? On la trouve où?
Alors, comment ordonner tout ça? Alors, effectivement, si on veut commencer par le commencement, c'est la spiruline à l'état naturel. Parce que la spiruline, elle sort pas du néant. Elle est sur Terre depuis 3,6 milliards d'années. Donc, c'est l'origine de la vie sur la Terre. Pas que la spiruline, mais la famille des cyanobactéries. Donc, on dit que les cyanobactéries seraient les êtres qui auraient ramené le taux d'oxygène à 21% sur la Terre. 21% qui est le taux dans lequel l'homme peut vivre, qui est la vie en général. Elle s'est adaptée, elle a résisté à toutes ces années, ces périodes de chaud, de froid, et elle est toujours là, pour nous offrir tous ces nutriments. Donc elle vit dans des lacs particuliers, surtout dans l'hémisphère sud, mais pas que. On en trouve aussi en France. À savoir que ses conditions de vie sont une eau salée, mais pas salée comme la mer. C'est pour ça qu'elle est dans des lacs et pas dans la mer. Elle est dans des eaux alcalines, donc à pH élevé, à l'inverse de l'acidité. L'alcalinité sur l'échelle du pH, donc à l'état naturel, elle est sur une échelle qui varie entre 8 et 10, ce qui est assez élevé. Et voilà, donc on en trouve en Afrique, notamment au Tchad, en Amérique latine, c'est le Pérou. Et on en trouve aussi en Asie, en Inde et en Birmanie. Et on en trouve aussi en Europe, étonnamment, depuis peu, donc en France et en Andalousie, en Espagne.
Donc revenons à toi, hein, ton oui. histoire, ton aventure dans la spiruline.
Oui. Alors moi, dans tout ça, j'ai une formation agricole, je voulais faire agriculteur. J'étais plutôt orienté vers le maraîchage, un peu déçu parce que c'était beaucoup de travail, j'avais pas envie de travailler comme un âne. Du coup, j'ai fait ma route, je suis allé en Afrique, et en Afrique, j'ai rencontré la spiruline. J'ai voulu intégrer un projet qui avait commencé à Gao, sous l'initiative de Pierre Rabhi. Après, on s'est... l'association s'est autonomisée. Pierre Rabhi a continué avec une autre association, mais avec plusieurs amis et les paysans de ce village qui s'appelle Tacharan, qui est proche de la ville de Gao, qui est au nord du Mali. Nous avons eu l'idée, et il y a eu une demande forte locale d'avoir une culture de spiruline. Donc de ce fait, je me suis formé. Donc là, on était en 2001. Je me suis formé et j'ai cultivé la spiruline ici, mais à échelle familiale, on va dire. Et je suis parti à Gao, à Tacharan, pour installer une production de spiruline. Donc... ce travail a duré de 2001 donc jusqu'à 2006-2008. Après quoi, il y a eu une guerre à Gao, comme pratiquement tout le monde le sait, l'a entendu, après qui est arrivée en 2012 plus sévèrement, et qui fait que la culture de spiruline a été abandonnée. Elle a quand même tenu 10 ans, et le but est quand même de la remettre en place, mais on est en recherche de fonds et de soutiens locaux pour mettre tout ça en place.
Et c'était pour les populations locales ?
Alors oui, c'était on a créé une association sur place, à Gao, à Tacharan, qui cultivait la spiruline, où la spiruline était... Alors c'était une des rares productions en Afrique, c'était la première du Mali, une des premières d'Afrique de l'Ouest, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Alors là, c'était un fonctionnement associatif, c'est-à-dire les gens venaient aider et repartaient en échange de spiruline pour eux. S'ils avaient, par exemple, c'était souvent les femmes qui venaient aider à récolter, et si elles avaient un enfant qui était malnutri, elles pouvaient le nourrir à spiruline. C'est vrai que c'est une région, c'est pour ça qu'on a installé cette culture, qui souffre énormément de malnutrition. Donc on est vraiment en bordure saharienne, où les pluies se font très rares, beaucoup d'érosion sur les sols, les cultures agricoles ont des rendements très faibles, il y a beaucoup de parasites, d'oiseaux, de criquets qui font que les gens ne mangent pas tous les jours à leur faim.
Et donc la spiruline venait comme solution contre la malnutrition.
Oui, alors ce qui est intéressant à la spiruline, c'est que les gens peuvent être autonomes dans la production très vite, et on arrive avec une bouteille de 10-15 litres de souche et on ensemence, et au bout d'un mois, on peut commencer à récolter si l'infrastructure est prête. Donc c'est quand même très intéressant. On pourrait presque utiliser la spiruline en humanitaire d'urgence, vous voyez.
Ah oui, en effet. Bon, je vais profiter de cette courte pause musicale pour aller m'aérer un petit peu parce que je dégouline littéralement. Il fait très chaud dans cette serre. Nous retrouvons donc Adrien, tout de suite après. Santé aujourd'hui, Catherine, avec Adrien Galaret, producteur de spiruline à Saint-Martin-la-Bouval dans le Lot, au lieu dit Nouguérac. Donc, Adrien, la spiruline, comment tu l'élèves?
Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des conditions de vie qu'il faut respecter, à savoir une eau chaude, une eau salée, alcaline. Alors il y a une agitation. Tout à l'heure on entendait les roues à aube. Donc c'est des roues qui vont agiter l'eau. Parce qu'il faut savoir que c'est des bassins et la spiruline vit dedans. C'est une microalgue, donc elle vit en suspension dans l'eau. Donc la spiruline, elle, naturellement, elle a besoin de lumière, du soleil. Donc elle va monter à la surface de l'eau. pour chercher cette lumière. Et si on la laisse faire, comme ça, si on n'agite pas, eh bien, elle va brûler au soleil. Naturellement, dans les lacs, il y a des petites vaguelettes qui fait que il y a ce phénomène que en bordure de lac. Alors nous, on veut produire, on veut optimiser les productions. Pour cela, on agite le bassin.
Il faut créer du mouvement.
Voilà, on crée du mouvement dans l'eau. Donc ça, c'est une condition. Voilà, il y a aussi un petit peu d'ombrage sur les bassins. Donc une fois qu'on a rempli nos bassins à partir d'une souche, théoriquement, la souche, elle vient d'un lac. Donc la spiruline, c'est une division, elle se multiplie par division asexuée. Donc on réunit les conditions, elle se multiplie par deux. Un individu se multiplie par deux tous les 4 jours. C'est-à-dire, l'intégralité des individus dans un bassin se multiplie par deux tous les 4 jours. Donc, c'est un mode de reproduction très rapide. Très rapide. C'est une bactérie. Donc, une fois qu'on a extrait une souche d'un lac, on va l'habituer, on va la domestiquer à un milieu de culture artificialisé, c'est-à-dire un milieu de production, parce que nous, on cherche à produire. On va l'habituer à avoir un rendement un peu plus important que dans les lacs. Et après, on va pouvoir la cultiver. Et donc, pour ça, on prend par exemple 1 litre de ce milieu domestiqué et on va le faire grandir petit à petit en rajoutant l'eau, les conditions. Il y a des minéraux aussi qui sont importants.
Là, voilà, faut les nourrir. Voilà. Elles ne prennent pas que la lumière, que le soleil.
Exactement. Elle a besoin d'azote, de phosphore, de magnésium, de potassium. Tout ce qu'elle va donner sous forme alimentaire, elle en a besoin sous forme, comme de nutriments, minéraux, qu'elle puisse assimiler. Voilà. Donc tout ça, il faut veiller à cette alchimie qu'il y a dans les bassins. Ça peut être pointu, parce que des fois, ça se joue un peu, pour qu'elle soit en bonne santé. Et donc, on va petit à petit, à force de grandir notre milieu, atteindre des milliers de litres, comme on le souhaite. Moi, j'ai 25 000 litres. Donc, et l'année dernière, la souche que j'ai là, j'avais que 10 litres à cette époque. Donc une fois qu'on aura rempli nos bassins, tout ce qui va commencer à pousser en surplus, on va le récolter. Donc là, vous voyez, on a une table de récolte. Donc une table de récolte, en fait, c'est une table avec
comme un grand tamis.
Avec un grand tamis sur lequel je positionne un filtre. Alors le filtre, il n'est pas là, mais c'est un tissu en nylon à maille très serrée qui fait entre 20 et 30 microns la maille, parce que la spiruline fait 20-30 microns. Enfin, cette souche-là. Donc, il faut des mailles adéquates pour la retenir. Donc, sur cette table, je positionne le filtre. Avec des pompes et des tuyaux, je fais venir la spiruline. La spiruline reste dans le filtre. L'eau, le filtrat, revient dans le bassin. Donc, on peut voir ici qu'il y a un système de gouttière pour que l'eau revienne dans le bassin. Donc, on va essayer vraiment d'économiser l'eau au maximum. Au passage, il faut savoir que la culture de spiruline ne consomme très peu d'eau par rapport à une culture de maraîchage ou une culture en terre, puisqu'on n'a que l'eau qui est dans le bassin.
Oui, donc ça, c'est intéressant dans le Lot. Hein, il ne pleut pas beaucoup.
Exactement,
hein.
Et il n'y a pas besoin de sol. Donc encore quelque chose d'important. Et en fait, on ne compense que l'eau d'évaporation. C'est la seule perte qu'on puisse avoir dans la saison. Et s'il y a vraiment un problème, on est obligé de vider un bassin. Ça, c'est en cas de problème. Donc, on récupère cette biomasse, ça forme un agglomérat de spiruline, on appelle ça une biomasse, qu'on récupère sur le filtre, on la laisse un petit temps s'égoutter, on l'empaquette dans une clé avec des vieux filtres, des tissus, de nylon, et on la presse pour extraire le maximum d'eau. Donc, j'ai une presse à levier très simple, sur le modèle des Burons en Auvergne. Et là, donc c'est très efficace, ça marche très bien, c'est vieux comme le monde. Et on obtient un produit qui ne contient que 20-30% d'eau. Donc là, on a un produit qui est déjà consommable.
C'est la spiruline fraîche.
Voilà. Que je vends au marché de Villefranche-de-Rouergue en saison. Donc là, c'est un peu la fin.
Oui, parce que tu n'en produis pas toute l'année ou tu n'en vends pas peut-être toute l'année de la spiruline fraîche.
Oui, eh ben alors la spiruline fraîche, je la vends que en saison. Donc en saison, c'est-à-dire, je vous ai dit que la température de l'eau, faut qu'elle soit entre 20 degrés et 40 degrés. Je ne chauffe pas mes serres. Donc la saison, en gros, c'est de fin avril jusqu'à fin septembre, début octobre. Voilà, donc là on est à la fin de la saison. C'est vrai que pendant l'hiver, je suis sur le marché l'hiver de Villefranche, mais que pour la spiruline sèche. Voilà, donc par rapport aux étapes de production, après la vente de spiruline fraîche est vraiment une infime partie de ce que je vends, on va dire 5-10%, allez 10% en saison, mais sur l'année quand même, les 95% c'est la spiruline sèche. Donc cette spiruline fraîche, généralement, je la sèche après récolte. Donc le séchage, je la transforme en spaghetti, cette spiruline. J'ai un poussoir à viande qui a été transformé, qui me fait des spaghettis de 1,5 mm.
Donc ça, c'est toi qui l'a fabriqué pour tes besoins, pour ta production. Ça n'existe pas, on ne trouve pas ce genre de matériel.
Non, il n'y a pas ce genre de matériel exprès pour la spiruline. Mais aujourd'hui, tous les producteurs de spiruline artisanaux utilisent les poussoirs à viande pour... En fait, c'est très bien adapté.
Oui.
Mais il y a des petites modifications à faire quand même. D'accord. Et donc, ces spaghettis, je les étale sur des clés de séchage. Et ces clés de séchage vont dans un séchoir qui fonctionne à 90% solaire. Donc, grâce à la chaleur du soleil et un peu d'électricité pour envoyer de l'air. C'est-à-dire, il y a des gros ventilateurs dedans qui brassent toute cette air chaud et qui fait que ma spiruline va être sèche au bout de 6 à 8 heures. Donc, quand je récolte, c'est le matin. Il faut savoir que je fais entre 4 et 5 récoltes par semaine. Et une récolte, c'est à peu près, en tout, entre la filtration jusqu'au séchage, c'est autour de 6 heures de travail. Donc, le matin, je récolte. Matin, bonne heure, vers 7 heures, je commence. En fin de matinée, la spiruline est dans le séchoir. Et en fin de journée, je récupère la spiruline du séchoir.
Et elle est prête à être consommée à ce moment-là ou...
Alors, elle est prête, effectivement. Après, on a quelques règles d'hygiène qui fait que avant de mettre un lot sur le marché, on va faire des analyses bactériologiques qui vont assurer l'innocuité du produit. Donc chaque spiruline est incorporée dans un lot et chaque lot est analysé avant toute mise sur le marché.
On peut dire que c'est un produit vivant.
La spiruline.
La spiruline.
Ah oui, oui, c'est un produit très vivant, surtout la fraîche.
Hein, surtout.
Ouais.
Alors, je rappelle hein, ce que c'est que la spiruline. Enfin, Adrien, vas-y, tu sais mieux que moi. Hein, qu'est-ce que la spiruline pour tous ceux qui prennent l'émission en cours?
Alors, la spiruline, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une micro-algue qui, scientifiquement, est dans la famille des cyanobactéries. Donc, c'est un aliment, un super aliment, qui est très complet, qui offre... une palette nutritive intéressante. Elle est très riche en protéines. C'est 65% de son poids. Donc, on ne connaît pas d'égal. Hein. C'est l'aliment le plus riche en protéines qui existe. Elle est très riche en fer. Beaucoup de gens en prennent contre les anémies. Donc, dans une cuillère à café, vous avez 30% des apports journaliers recommandés en fer. Et après, il y a beaucoup de vitamines antioxydantes. Je pense à la bêta-carotène où dans une cuillère à café, vous avez 400% des apports journaliers recommandés, donc ce qui n'est pas négligeable. Et dans les vitamines antioxydantes, vous avez aussi, enfin c'est pas des vitamines, mais il y a des pigments, notamment la phycocyanine, qui est le pigment bleu de la spiruline, qui est très intéressant pour la santé. Et après, vous avez toutes les vitamines B, la vitamine B12, qui est intéressante pour les végétaliens, la vitamine K, et énormément d'oligo-éléments, notamment le magnésium, le potassium, le calcium, le sodium, voilà, et tous les micro oligo-éléments, quoi.
Ah, donc d'une façon générale, la spiruline va vraiment nous aider à équilibrer notre alimentation, à garder, à retrouver le tonus et aider notre organisme à mieux se défendre. Hein, elle est conseillée par les thérapeutes hein, dans les cas de fatigue chronique, de stress, de manque de fer. On vient d'en parler hein, au cours de la grossesse. grossesse, de l'allaitement, des troubles de la ménopause, des intoxications, des convalescences. À tout moment de l'année, on peut la consommer pour notre système immunitaire, pour se nettoyer, mais aussi pour se revitaliser. Hein, les oui. sportifs l'utilisent beaucoup, mais également les, ah oui. Les personnes âgées, les enfants, ça convient vraiment à tout le monde. Mmh.
Mmh. Alors oui, alors c'est vrai qu'il y a cet effet qui est détoxifiant dans un premier temps, qui va permettre de nous nettoyer notamment contre les métaux lourds et d'autres choses. Et après, il y a un effet, alors là, on parle vraiment d'une cure de spiruline, c'est-à-dire on en prend entre 5 et 10 grammes par jour.
Donc c'est une cuillère à café. 5 à 10 grammes.
Tout dépend de la forme. Parce que je propose deux formes. Je propose le vermicelle et la poudre. En vermicelle, effectivement, ça fait 5 grammes, équivaut à une grosse cuillère à café ou une petite cuillère à soupe, on pourrait dire. Et une cuillère à café normale pour la poudre. Et on peut doubler dans des cas curatifs.
Donc, si on veut se nettoyer, faire une cure de détox, on va le faire sur combien de temps ? Tu dis on peut doubler la quantité, mais on peut doubler... Comment ça se passe pour une cure de détox, par exemple, pour se nettoyer?
Alors, bon, moi, je suis pas médecin, donc c'est bien de demander conseil à son médecin. Mais moi, ce que je vais vous conseiller en tant que producteur, en général, 5 grammes, c'est le minimum en termes de spiruline.
Par jour?
Par jour, voilà.
Et pendant combien de jours?
Alors, moi, ce que je conseille au minimum, c'est un sachet. Mes sachets font 100 grammes, ça fait 3 semaines de cure.
C'est le bon temps pour une cure, 3 semaines. Hein.
Alors, pour moi, c'est le minimum. Mais il y a beaucoup de gens qui voudront continuer. Et moi, je dis aux gens, parce que cette question revient souvent, faites comme vous le sentez, comme votre corps vous le dit. Si vous avez envie de continuer, allez-y. Il n'y a pas de contre-indication en matière de spiruline. Il y a des docteurs qui disent, mais on peut consommer la spiruline toute l'année. Ça pose aucun problème. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui me prennent l'aspirine toute l'année.
Mais s'écouter, c'est ce qu'il y a de mieux, je crois. Hein. De voir si on en a envie encore. Voilà. L'envie, moi, je conseille souvent à l'envie. Ouais. Vous avez envie d'arrêter un moment, ben vous arrêtez. Vous avez envie de reprendre, vous reprenez. Vous avez envie de continuer, ouais. Vous continuez.
Ouais. Alors, c'est vrai. Après, on peut dire quand même 2-3 petits conseils parce que c'est un effet vitalisant. Donc, c'est intéressant en intersaison. Là, à l'entrée de l'hiver, en ce moment... ou au printemps, et dans des moments où on travaille beaucoup, on a besoin d'énergie, des saisons de travail, voilà, c'est très intéressant.
D'accord, bah écoute, merci beaucoup, peut-être que tu veux ajouter quelque chose, oui, avant de terminer.
Oui, alors je voudrais rajouter qu'il y a, en France, on est fédérés, les producteurs de spiruline sont fédérés, donc c'est la Fédération des spiruliniers de France. Vous pouvez voir le site internet sur spiruliniersdefrance.fr. Si vous êtes pas forcément dans le Lot ou dans l'Aveyron, vous pouvez regarder, il y a une carte Google, quel est le producteur le plus proche de chez vous. Et cette fédération structure la filière spiruline en France. On élabore les normes d'hygiène. On est en train de faire les cahiers des charges bio, qui n'existent toujours pas. Et tout ça, c'est en train de se mettre en place. La filière est vraiment en train de se structurer. Cette fédération existe depuis 2009. Et à côté de ça, je suis président d'une petite association qui s'appelle Spiruline et Progrès, à l'image de Nature et Progrès. Et cette association, Spiruline et Progrès, a pour but de faire de la recherche pour la spiruline bio et autonome. Voilà, c'était ma petite annonce.
Eh bien, merci beaucoup. Une prochaine fois, je vous donnerai quelques recettes parce que là, on n'a plus le temps. Mais c'est délicieux et il y a de très, très chouettes recettes avec de la spiruline. Merci, Adrien. J'étais ravie de te rencontrer chez toi.
Merci à toi, Catherine. À bientôt.
À bientôt. Et tout de suite, une pause musicale.
Now, hear this. That's the second man called Serge Gainsbourg, the original of the man. When they call I happy, I laugh quietly, darling. Beauty is a thing from the heart.
Quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement pour pas te réveiller.
Don't watch the face. The face is the thing you can erase, but beauty. Beauty, you can't keep him to space.
qui boit, c'est lui qui est mort d'une cirrhose. Te déteste par osmose, tellement qu'il buvait mes paroles.
This is not the race for the ugly. So you're beauty lies.
Gueule, mais on n'est plus rien. D'ailleurs, nous les affreux, je suis sûr que Dieu nous accorde un peu de sa miséricorde. Car...
Do we may be ugly? God has granted us some kind of forgiving. So you live the life you love and you love the life you live. I think this says it's mine to give. Love is true, love is pure. Love is something no doctor can cure. Duty is a thing from the heart. To all you girls, you give it from the start. That comes from the heart. Don't recharge your part. You got it from the start. I was called the original of the man, but God has gave me a musical plan.
Donc nous retrouvons Marine pour une jolie histoire aujourd'hui. Tu vas nous parler de d'Halloween. Hein, c'est le moment. Bonjour Marine.
C'est la saison. Bonjour Catherine. Donc un thème aujourd'hui de saison, un conte d'Halloween. Alors un jour, en traversant un cimetière, un homme trébucha contre une tête de mort. Furieux, il donna un grand coup de pied à la tête. Puis lui dit en riant, « Mort, je t'ai maltraité. Et si tu es sans rancune, viens donc dîner à la maison avec moi ce soir. Je t'attends à 8 heures. » La tête de mort ne répondit rien, et l'homme rentra chez lui. Le soir, sur le premier coup de 8 heures, il allait se mettre à table quand il entendit frapper à la porte. Il alla ouvrir, et devant lui se tenait un squelette enveloppé d'un linceul. « Je viens dîner avec toi, » dit le squelette. Tu vois que j'ai bonne mémoire. Mort, installe-toi, je vais chercher une bouteille de bon vin, répondit l'homme. Ils s'attablèrent l'un en face de l'autre, et l'homme veilla à ce que son invité ne manque de rien. Mais le mort faisait semblant de manger. En réalité, il jetait tout sous la table, tout ce qu'il avait l'air de porter à la bouche tombait sur le sol. À la fin du repas, il dit à son hôte, ton dîner était vraiment bon. Maintenant, c'est à moi de t'inviter. Viens demain à minuit dans mon cimetière, et si tu ne viens pas, il t'arrivera de grands malheurs. Eh bien, fais mettre mon couvert, répondit l'homme. Le lendemain, sur le coup de minuit, l'homme se présenta à la porte du cimetière. Il faisait nuit noire, des lumières brillaient dans le cimetière, et on sentait comme une bonne odeur de cuisine. L'homme frappa à la porte, elle s'ouvrit d'elle-même. À la lueur des cierges allumés, il vit une table dressée. Et des morts, vêtus de linceul, qui achevaient de faire la cuisine. Un squelette s'approcha de lui et lui dit, « Tu es un homme de parole. Assieds-toi et ne laissons pas refroidir la soupe. » Tous les morts s'attablèrent et l'homme se mit en face de celui qui l'avait invité. Mais il se méfiait. Comme il l'avait vu faire à la veille, il faisait semblant de boire et de manger, et jetait tout sous la table, tout ce qu'il avait l'air de porter à sa bouche tombait sur le sol. À la fin du repas, le mort lui dit « Homme, tu es malin. Si tu n'étais pas venu, il te serait arrivé de grands malheurs. Et si tu avais mangé une seule miette de pain ou bu une seule goutte de vin, tu serais mort sur le champ. Alors maintenant va et n'insulte plus les morts. »
Merci Marine. Une belle histoire.
Merci Catherine.
À bientôt.
À bientôt pour une nouvelle histoire.
Voilà, et tout de suite, une courte pause musicale et nous retrouvons juste après Clément pour une histoire de cailloux.
À 15h30, j'étais fatigué, j'avais mal. Tu es fatigué, c'est tout, dit-elle. Acheter une livre et demie de viande hachée, haricots en boîte plus chips. Quel besoin avais-tu d'acheter tout ça, dit-elle. Tu ferais mieux de nous pondre un truc qui marche, mon garçon, dit-elle. Tu ferais mieux de nous pondre un truc qui marche. Allez, continue comme ça. Continue comme ça. Oui. Oui. Aval, me disais-je. Allez, aval. Allez au diable. Je m'appelle Samuel Hall. Je vous déteste tous. Allez au diable. Je m'appelle Samuel Hall. Je vous déteste tous. L'estomac s'est contracté. Oh, de la mortadelle. Oh Dieu, c'est quoi? Oh Seigneur, j'ai dit. Oh. Tu ferais mieux de revoir tes vieux amis, dit-elle. Tu ferais mieux de revoir tes vieux amis. Glisser le carbone plus papier dans la machine et au travail. C'est ça, oui, c'est ça, dit-elle. Aval, me disais-je. Allez, aval. Allez au diable. Je m'appelle Samuel Hall. Je vous déteste tous. Allez au diable. Je m'appelle Samuel Hall. Je vous déteste tous. Continue comme ça. Allez. Continue comme ça. Ouais. Ouais. Continue comme ça.
à votre santé dans la rubrique Une pierre sur le chemin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer, de retrouver Clément qui va nous parler de l'œil de tigre. Bonjour Clément.
Bonjour, oui, l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, très belle pierre orangée et noire, voilà, d'où son nom. L'œil de tigre est en cas de trouble articulaire au niveau des jambes, de problèmes de genoux. Elle permet de stabiliser l'hypertension, elle régénère les tissus, réduit la fatigue du mental et diminue les verrues. Elle agit aussi lors d'acidité gastrique, aide à mieux digérer, réduit la tension artérielle, elle facilite la respiration par la décontraction du diaphragme. Sa principale utilisation est sur la protection psychique. En effet, elle a la capacité de renvoyer l'énergie négative. Elle trouve ainsi sa place lors de problèmes liés à une personne ou à un lieu. Elle permet de ne plus être influencée par les mauvaises énergies que l'on nous envoie de façon volontaire ou involontaire. À noter cependant que son effet miroir est à double tranchant. En effet, elle peut révéler également nos propres parts d'ombre et de la négativité. Cette pierre stimule la volonté, elle nous permet de nous affranchir de nos limites, à dépasser nos peurs, à nous affirmer avec sérénité. Elle nous rend plus optimistes, aide aux prises de décision, apporte reconnaissance de soi en tant qu'individu, ce qui permet d'améliorer les relations amicales.
Ah, oh, très bien ça. Donc c'est une pierre que l'on peut porter, que l'on oui. peut avoir aussi dans la maison.
Dans la maison, selon la légende, elle apporterait richesse et fortune quand elle est placée dans les pièces de la maison.
D'accord, on peut en mettre partout alors.
On peut en mettre partout.
Dans ses poches, voilà. Sur les meubles.
Le seul point où il faut faire vraiment attention, voilà, c'est l'effet miroir. Si on a des mauvaises pensées, on risque de les récupérer.
Ça les renvoie, voilà. ça les amplifie, peut-être, non pas.
Non, c'est juste que ça renvoie. Donc en fait, c'est vraiment voilà ce côté miroir.
Y voir plus clair, c'est intéressant aussi.
Oui.
Prendre conscience des.
Ça permet de faire la lumière, voilà, sur nos parts d'ombre. Donc.
C'est une bonne chose aussi, alors.
Oui.
Alors, comment on la nettoie déjà,
l'œil de tigre? C'est une pierre solaire, donc le mieux, c'est de la mettre en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée.
Oui, ou de toute façon à la lumière du jour.
Hein, voilà. Après, du fait de sa capacité de miroir, en fait, elle se charge assez peu, finalement. C'est plus que voilà, si on demande beaucoup de richesse et de fortune, peut-être qu'il faudra la recharger un petit peu.
D'accord. Donc on le fait à l'intuition,
voilà.
Hein, comme on le sent. Merci Clément.
Avec plaisir.
À la prochaine fois. Après une courte pause musicale, nous retrouverons la rubrique trucs et astuces. À tout de suite.
Et les Anglais en vacances ont la peau blanche. Sous leurs épaisses pattes rousses, leurs épouses sont vieux jeu. Elles ont l'air trop pâles, malins. Dans leurs lourdes jupes en laine peignée, et même leurs bas sont mats. Car les Anglais en vacances sont toujours gentils et polis. Comme de grands adolescents pubères, ils s'arrêtent toujours aux tables des petits restaurants de bord de route pour bonder leur bébé assis en coin de table sur une chaise trop petite malgré le coussin plastique. Et c'est oh. D'une voix distinguée et toujours soprano. Entre leurs dents cariées par les bonbons, parle du gazon, du criquet et du temps. Ils se regardent, ils commandent le thé, mais ils se font engluger. Et les Anglais en vacances conduisent maladroitement. Ils ont toujours peur des camions, des virages, des montagnes, des routes de France.
patrouille, c'est lui gendarme.
Maintenant, dans notre rubrique trucs et astuces, comment stopper un rhume? Eh bien, tout simplement avec un citron pressé chaud. Boire une boisson chaude permet en effet d'humidifier l'appareil respiratoire. L'eau chaude dégage de la vapeur qui va en partie fluidifier les sécrétions et aider au mouchage. Le citron est un excellent antiseptique contre les virus. Il est riche en vitamine C et en diverses vitamines. Il stimule nos défenses immunitaires. Un autre moyen de stopper un rhume, c'est l'huile essentielle de Ravintsara, hein, Cinnamomum camphora cineoliferum, ne pas confondre avec Ravintsare. Hein, l'huile essentielle de Ravintsara est une huile antivirale exceptionnelle. Il n'y a aucune contre-indication à utiliser cette huile, elle convient à toute la famille. Donc au premier signe de fatigue nerveuse ou physique, de rhume, de grippe, une goutte sur chaque poignet ou sur la poitrine, vous appliquez et vous respirez. C'est très très efficace. Voilà, donc j'aimerais aussi vous annoncer pour le mois de novembre, hein, le Collège de naturopathie Midi-Pyrénées à Villefranche-de-Rouergue propose dans sa formation un module gestion du stress et des émotions. Il s'agira d'une initiation à la sophrologie et à diverses méthodes de relaxation comme le training autogène, la méthode Vitose, la visualisation créatrice, la respiration. Donc c'est une formation ouverte à tous. Cette formation a lieu les 5 et 6 novembre à Villefranche-de-Rouergue. À très bientôt, l'émission arrive à son terme. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et puis restez à l'écoute de CFM, mais surtout à l'écoute de vous-même. À très bientôt. Yeah.